Le grand témoin.
Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Maître Wemboloa Otshudi Kenge Henry. Il est avocat, président de l'ONG Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux et coordonnateur du réseau des protections des défenseurs de droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias. Maître Henry, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
C'est aussi un très grand plaisir pour moi.
Alors avec vous, dans notre entretien de tout à l'heure, on va parler de la situation des droits de l'homme en RDC. Vous êtes même auteur d'un ouvrage sur les droits de l'homme. Le titre de votre ouvrage, Réflexion sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va en parler aussi dans cette émission. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Kisangani. Le 5 août 1969.
Et c'est à Kisangani où vous avez passé votre enfance?
La petite enfance, mais sinon j'ai passé le plus de temps possible au Katanga et au Kasaï occidental et dans d'autres provinces.
Vous avez passé votre enfance
dans différentes provinces. Que mon père travaille dans l'administration et alors avec l'histoire des mutations, on est obligé de circuler à travers
d'une province à une autre.
C'est ça.
C'est quand même une richesse, non, le fait d'avoir visité plusieurs provinces comme ça?
Oui, effectivement, sur le plan culturel, on échange, on rencontre des personnes, des cultures, et c'est une richesse, effectivement.
Sur le plan culturel?
Oui, oui.
C'était un handicap par rapport aux études, parce qu'il fallait tout le temps changer d'école?
On avait eu la chance, parce que les études se sont passées dans les bonnes conditions. On a bénéficié aussi du temps pour étudier à l'internat. Et ça nous a facilité aussi la tâche.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études aux humanités?
Aux humanités, là, c'est à Kananga. J'ai fait une partie à Santa Maria, au Institut Amani, au Katanga, donc dans le Tanganyika aujourd'hui, à Moba. Et une autre partie à Kananga, à l'Institut Pédagogique de Kananga. Donc, c'est la pédagogie générale.
Pourquoi avoir choisi de faire la pédagogie? Un choix personnel ou imposé par les parents?
C'était pas un choix imposé, mais on a cet amour-là de l'enseignement.
De donner cours, vous rêviez de devenir enseignant un jour?
J'ai rêvé et je suis même enseignant. Pour le moment, je suis chef des travaux au Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente, CIDEP. Et j'assume aussi des enseignements à l'université chrétienne Cardinal Malula. Donc c'est depuis vraiment la jeunesse que j'ai aimé l'enseignement.
Qu'est-ce qui vous a fait aimer l'enseignement?
Non, c'est une vocation, vraiment, c'est pas expliqué.
Vous avez un diplôme de gradué en droit de l'université de Lubumbashi, mais aussi un diplôme, hein, licence toujours en droit à l'université de Lubumbashi.
Oui.
De la pédagogie aux humanités, au droit à l'université.
C'est ça.
Pourquoi ne pas continuer dans l'enseignement, par exemple?
Là, il faut dire que c'est par influence. L'influence des grands frères, grandes sœurs qui faisaient déjà le droit. Et moi, j'ai rêvé faire la carrière de diplomate, mais ils m'ont dit qu'avec le droit, tu pouvais aussi faire le droit international public. C'est ainsi que les aînés m'ont attiré en droit. Et j'ai aimé le droit, j'ai compris que...
Donc vous aviez deux rêves, celui de devenir enseignant et puis diplomate.
Effectivement, oui, oui. On rêvait quand on voyait Ngozi Kalibond, on se disait non vraiment, ça c'est un idéal, il faut suivre comme ce monsieur-là. Et on m'a juste fait comprendre qu'on pouvait faire le droit et aller dans n'importe quel sens.
Et c'est ça que vous avez fait?
C'est ce que j'ai fait, et donc à l'université de Lubumbashi, graduat et licence en droit.
Diplôme de troisième cycle en droits fondamentaux à l'Université de Nantes, en France.
Oui, c'est juste lorsque j'ai terminé les études universitaires. Là, c'est en 1997, à l'entrée de l'AFDEL. Et je me suis embarqué, je suis allé au barreau, je commençais à Kananga. Et là, j'ai commencé aussi à travailler dans une ONG de droits de l'homme avec certains qui sont aujourd'hui fonctionnaires internationaux. Dans une ONG, on s'occupait de la prison, des prisonniers qui souffraient. J'ai compris que j'avais une vocation aussi pour aider les personnes.
Les prisonniers qui souffraient, comment les conditions, leurs conditions?
Les détentions irrégulières, et avec les aînés qui étaient déjà dans la profession, on a commencé à aider ces gens-là. On a créé même une association, la Ligue des avocats pour les droits de l'homme à Kananga. J'étais le secrétaire général et bon, on a vraiment fait quelque chose.
Vous aviez déjà quelques notions sur les droits de l'homme?
Oui, à partir de l'université déjà un peu. Et puis quand j'ai commencé à enseigner à l'époque, dans le programme du CIDEP, il y avait des cours tels que Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc j'ai commencé déjà à faire des recherches et ça m'a intéressé par rapport aussi à ce que je faisais sur le terrain. On s'est occupé des enfants, on s'est occupé des cas de longues détentions, et c'est encore la situation même aujourd'hui. Vous trouvez, si vous êtes avocat, vous allez quelque part, vous vous rendez compte qu'il y a un monsieur qui a fait 3 ans, il est là en détention préventive et sa situation est sans issue, et vous pouvez compatir et vous dites non, donnez-moi les éléments de votre dossier et vous essayez de suivre.
Vous le faites gratuitement?
Oui, pour certains cas vraiment on l'a fait et on le fait gratuitement.
Alors maître Wimbolwa Oshudi, en plus de votre diplôme de 3e cycle en droits fondamentaux, vous avez un master en sciences et éducation avec spécialité intégration pédagogique des technologies
de l'information
et de la communication.
Oui, effectivement. Donc après le master 2, le diplôme de 3e cycle de droits fondamentaux, j'ai validé un autre diplôme, master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux. C'est toujours de l'Université de Nantes. C'était dans le souci de renforcer les capacités dans le domaine des droits de l'homme. Et c'est après que, vous voyez, nous sommes dans un monde où l'informatique prend le dessus et on s'est dit non, il fallait apprendre. C'est ainsi que aussi il faut saluer l'Agence universitaire de la francophonie qui a permis que on peut aujourd'hui avoir des formations diplômantes, des formations académiques grâce à leur concours. C'est ainsi que j'ai fait donc la formation sur l'intégration des technologies d'information et de communication dans l'enseignement avec l'Université de Montréal. Donc il y a les enseignants qui venaient ici et qui nous ont même amenés à Brazzaville. Vraiment, c'est de la convivialité. C'est un monde nouveau où on peut apprendre de manière différente. Oui.
Vous avez grandi dans quelles conditions, maître Wimbolwa?
J'ai grandi dans les conditions ordinaires parce que mon père était dans l'administration, comme je disais, commissaire sous-régional, commissaire de district, qu'on a supprimé aujourd'hui. Il était responsable là où il était, administrateur des territoires, des choses comme ça. Donc on a vécu dans des conditions ordinaires, mais au milieu, une vie de moyenne.
Vous êtes marié, père de 3 enfants. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie? Je n'aime pas le mensonge et le désordre. Et c'est ainsi que je préfère vivre dans la vérité et dans la crainte du Seigneur aussi, parce qu'il faut aussi mettre Dieu au milieu de tout ce que l'on fait.
C'est quoi votre plat préféré?
Le plat préféré, c'est les haricots. J'ai appris à manger les haricots à Moba. À l'internat, on mangeait les haricots du 1er au 30, même si on pouvait associer d'autres éléments. Et le matin, à midi et le soir, on avait les haricots. Donc, c'était formidable. Donc, j'aime beaucoup les haricots.
Sportif?
Sportif, je préfère mieux le volleyball. Je joue au volleyball.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Pendant mon enfance, le plus grand souvenir, c'est...
Il y en a beaucoup, là?
Il y en a beaucoup.
Mais est-ce qu'il y a un seul qui vous revient à l'esprit, qui a marqué votre enfance?
C'est ce qui a marqué mon enfance, c'est la convivialité, c'est donc le temps que l'on passe avec les gens, la famille et surtout aussi la famille élargie. Nous avons connu aussi cet amour des familles africaines. Donc l'oncle, c'est le papa, le tel, c'est donc vous voyez même les gens que vous ne connaissez pas, quand on vous les présente, il est de Sankourou, et vous sentez, même si on était dans les fins fonds de la République, on veut vous présenter qu'il est de Sankourou. Vous sentez, non, mais c'est notre frère, donc ça c'est vraiment fantastique.
Radio Capi, grand témoin.
Maître Wemboloa Otudi Kenge Henri est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Il est président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et coordonnateur du réseau des protections des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias. Maître Wemboloa, vous avez commencé déjà à parler de vos débuts dans la défense des droits de l'homme. Vous avez commencé à Kananga dans une ONG avec vos collègues avocats. Vous avez travaillé dans cette ONG, je crois, jusqu'en 2003, la Ligue des avocats pour le droit de l'homme, jusqu'en 2003.
Oui, effectivement.
Et puis, vous avez travaillé comme directeur chargé des questions des enfants et formation à l'ONG Campagne pour les droits de l'homme au Congo. Là, c'était à Kinshasa, de 2003 à 2007.
Oui, oui, c'est ça, à Kinshasa.
Alors, parlez-nous un peu de cette structure.
Oui, cette structure, elle est spécialisée aussi dans le suivi des affaires devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est une structure qui fait la promotion des droits de l'homme et qui s'intéresse aussi beaucoup aux mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et aussi dans le plaidoyer aujourd'hui pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi l'examen périodique universel.
Alors, est-ce que ça existe toujours, cette structure CDHC?
Oui, CDHC existe encore.
Pourquoi vous ne travaillez plus là-bas? Vous avez préféré...
Non, on est toujours créer... ensemble. On est toujours ensemble.
Et... Ensemble, mais vous vous êtes retiré pour créer votre ONG.
Oui, parce qu'on a eu une autre vision. On s'est dit qu'il fallait faire les choses aussi selon ce que nous sentons. Et pas
c'est
nécessairement. C'est-à-dire ne pas nous focaliser seulement aux mécanismes internationaux, régionaux, mais aussi mettre un accent particulier sur l'éducation aux droits de l'homme.
C'est comme ça que vous créez l'AUDF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux.
Oui, c'est
en
ça.
En 2008.
En 2008. Mm-hmm. Et en 2014, nous avons. 2012, nous avons eu même la personnalité civile et on continue à œuvrer.
Qu'est-ce qui vous attire dans les droits de l'homme? Pourquoi vous vous focalisez sur les droits de l'homme?
Oui, les droits de l'homme, c'est ce qui fait la dignité de toute personne humaine. Et en Afrique, de manière plus particulière, lorsqu'on parle des droits de l'homme, il y en a qui considèrent que ce sont des gens qui sont des subversifs, ce sont des gens qui sont là pour taquiner les autorités.
Justement.
Ce sont des gens qui sont même comme des espions au pays pour filer l'information à l'extérieur. Et
lorsqu'ils font leur rapport, ils amplifient la situation.
Ils amplifient la situation et il y en a d'autres même qui disent que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, des bailleurs et tout ça. Donc nous avons voulu comprendre cette réalité et ceci nous a intéressé parce que tout le monde, toute personne a ce droit de se protéger soi-même en connaissant ses droits et de protéger aussi les autres. Et lorsqu'on se retrouve dans les sociétés comme les nôtres et qu'on connaît les droits, on connaît les droits de l'homme, on a cette facilité, eh bien, on ne peut que faire un effort pour aider aussi les autres à connaître leurs droits. Dans la mesure
où la vulgarisation.
On fait la vulgarisation, l'information, la formation, c'est l'éducation même. Donc c'est très important parce que si les autres nations aujourd'hui dans le monde ont beaucoup progressé, ont beaucoup évolué, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une égalité qui est due à toute personne humaine. Même si je suis autorité, il y a les droits des autres que je dois respecter. Et donc c'est cette éthique dans la fonction publique, dans l'armée, dans tous les services de sécurité qui place l'homme au-dessus de toute chose, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que nous avons compris et nous avons voulu y travailler.
Si on vous demandait par exemple quelle est la situation de droit de l'homme en RDC aujourd'hui, comment vous répondrez à cette question?
Oui, c'est une question intéressante. La situation des droits de l'homme au pays aujourd'hui, bon, il y a eu une certaine évolution qui ne peut pas être remise en cause, dont on ne peut pas faire de doute. Et c'est par exemple les instruments, c'est-à-dire les textes juridiques, des lois, la Constitution, notre Constitution, renferme beaucoup de dispositions en rapport avec les droits de l'homme, je crois, de l'article 11 à l'article 61. Plus de 50 articles, rien que sur les droits de l'homme. Droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, et les droits au développement. Donc, toute cette panoplie se retrouve dans nos textes juridiques aujourd'hui. On a ratifié plusieurs conventions internationales. Donc, c'est déjà un coup de chapeau, parce que par le passé, ce n'était pas le cas. Mais aussi, une avancée par rapport à quelques mécanismes mis en place. Ici, nous voyons par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme. Là, c'est un coup de chapeau pour le gouvernement. Tout celui qui, à travers le monde, apprend et sait que la RDC a aussi une institution nationale des droits de l'homme, ça fait plaisir.
Est-ce que ça suffit pour faire respecter les droits de l'homme, avoir une Commission nationale des droits de l'homme?
Non, ça ne suffit pas. Et puis, ce n'est pas une seule institution. Comme nous disons, la CNDA, c'est l'institution nationale. On a mis dans notre pays aussi d'autres structures qui malheureusement ne fonctionnent pas. Nous pensons que c'est aussi un plaidoyer pour que les autorités puissent décider. C'est l'entité de liaison des droits de l'homme. Donc il y a eu des textes de droits qui ont dit qu'il fallait qu'il y ait un cadre où les ONG et les autorités pouvaient se retrouver pour parler des questions de droits de l'homme. Pour quand il y a des violations des droits de l'homme, quand il y a des plaintes, il y a des mésententes, il y a les gens qui ne se comprennent pas, il y a des violations, la discrimination, autant de choses qui portent atteinte à la dignité. Il faut que les autorités avec les ONG, au lieu d'envoyer des rapports comme on ne veut pas qu'on envoie des rapports, ils peuvent se retrouver et trouver des solutions à ces problèmes. L'entité des liaisons des droits de l'homme sur le plan national, chapeauté par le Premier ministre, et dans chaque province, chapeauté par le gouverneur de province, mais malheureusement, ces institutions ne font pas le travail. C'est pour répondre, il ne suffit pas non plus d'avoir seulement des mécanismes.
Mais on vous accuse aussi, vous, ONG, de vouloir travailler beaucoup plus avec les institutions internationales plutôt que nationales.
Et si les institutions nationales ne veulent pas approcher ou ne veulent pas travailler avec les ONG nationales, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce que il y a...
C'est vous qui ne voulez pas. Vous donnez plus de crédibilité aux institutions internationales, semble-t-il.
Non, madame, ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Donc, il y a des circonstances telles qu'on est obligé de travailler avec les autorités, avec les institutions nationales. Ça, c'est vraiment le principe. Et il faut recommander à tout défenseur de droits de l'homme de comprendre que on ne peut pas faire le travail des défenseurs de droits de l'homme sans collaborer avec les autorités, que ce soit l'administrateur du territoire, à tous les niveaux possibles. Parce que quand nous constatons qu'il y a violation des droits de l'homme, c'est l'autorité qui va mettre fin à cette violation. Donc, il faut collaborer avec. C'est pour dire que nous sommes obligés de travailler avec. Mais lorsque vous devez, par exemple, travailler avec je prends un exemple, avec un administrateur du territoire. Vous vous retrouvez à Katakokombe, ou bien à Kalemi, ou à Kindu, et il y a des cas de violation des droits de l'homme. Qui est le responsable? C'est le numéro un, n'est-ce pas, de l'entité. Allez-vous collaborer avec lui, parce que lui, il n'est pas disposé à laisser. Donc c'est un peu ça le problème. C'est à ce niveau que l'on passe soit à la hiérarchie. Et par moments, si on trouve que la hiérarchie a de la complaisance, on peut saisir aussi les mécanismes internationaux pour trouver solution.
Alors depuis que vous travaillez dans ce domaine, quels bons souvenirs vous gardez de votre travail?
Oui, dans le cadre de mon travail, un très grand souvenir que j'ai, c'est que je trouve de la sympathie et de la compassion. Il y a plusieurs personnes qui savent compatir avec le travail que nous faisons. Je peux faire quelque chose de bien, la personne va partir, ne me paye pas, même après 5 ans, après 10 ans, on se retrouve quelque part, vous voyez quelqu'un qui est en train de vous dire « Maître, vous m'avez aidé, j'étais dans telle circonstance ». Ça, ça fait du bien. Et cela arrive pour tous les défenseurs de droits de l'homme. Il peut faire quelque chose, de n'importe de quelle manière, peut-être pas de très grande importance, mais il sauve une vie. Il sauve une personne. Et plus tard, comme on le dit, faire prodeo, effectivement, on le fait pour Dieu. Et Dieu sait quand il peut rémunérer.
Avez-vous déjà reçu des menaces par rapport au travail que vous faites?
Non, pas tellement. Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de menaces. Parce que ici, je dois préciser, je suis animateur d'une émission à la chaîne catholique, Radio-Télé-Catholique Elikia, depuis bientôt 8 ans. je n'ai pas eu de menaces comme telles, mais j'ai eu par moments les gens qui m'appellent pour me dire « Maître, voilà ce que vous dites là, vous devez dire ceci, vous êtes contre. » Donc, des choses comme ça, on reçoit des gens qui appellent pour exprimer ce qu'ils pensent. Mais à un certain moment, c'est pendant la crise des élections, on a eu vraiment des messages qui étaient très durs. Attention, c'est d'ailleurs vous qui étiez vous le défenseur qui entêtez le cardinal, c'est vous qui faites ceci. Ça, on a connu. Mais des menaces comme telles, nous faisons un travail avec un peu de professionnalisme, nous évitons et Dieu sait éviter. Et même les autorités savent, nous avons rencontré d'autres qui nous ont dit, vous faites votre travail, continuez à faire votre travail, mais lorsque nous sentons que vous êtes attaché à un parti quelconque de pouvoir politique, on saura que vous êtes avec l'opposition, avec le pouvoir. C'est ce que nous faisons comme effort pour éviter.
Alors, Maître Wemboloa, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une certaine évolution par rapport au respect des droits de l'homme en RDC. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a plus à s'inquiéter sur cette question en RDC?
Oui, je disais qu'il y a cette évolution sur le plan des instruments, sur le plan des mécanismes, et pendant une certaine période, on a senti qu'on montait avec, par exemple, la question de genre. Ça, il faut le dire aussi, mais on vient de constater tout récemment que là encore, on a rechuté. On a rechuté parce que, comme vous le savez, au niveau des gouverneurs de province aujourd'hui, si on peut faire le calcul, on dira qu'il y a 1 sur 26, soit 0,05%. Donc là, vraiment, je crois qu'il faudrait prendre toutes les mesures. Et ici, le conseil de dire que quand on en a une certaine responsabilité, il faut tenir compte de l'approche genre, qui veut que quand on a une décision à signer pour des promotions, il faut regarder est-ce qu'il y a le nom des dames là-bas qui peuvent aussi bénéficier de la promotion, et on prend une décision, on tient compte aussi de cette réalité. C'est ça. Par rapport à cette situation de la parité, vous voyez l'éducation des filles. Donc le gouvernement, le nôtre, a fourni beaucoup d'efforts pour que plusieurs filles soient éduquées, toujours par rapport à cette question, parce que il faudrait qu'il y ait des compétences même parmi les dames. Et même les conflits armés, vous voyez, à certains moments, on a même désigné un conseiller du chef de l'État en matière spéciale d'implication des enfants dans les conflits armés et tout ça, et même contre les violences sexuelles. Ça, c'est bon. Et il y a certaines avancées. Mais il faut déplorer aujourd'hui que, compte tenu de la situation du processus électoral, l'espace politique a été englouti, l'espace politique s'est fait peur, ou ce sont des intimidations, il y a des cas des arrestations, on peut parler aussi de mouvements aujourd'hui, Lucha, des jeunes gens qui sont en détention, vous sentez, il y a toujours des rapports par-ci, par-là, et des opposants politiques, voilà, parce que donc vraiment la situation du processus électoral risque de nous amener encore très bas, si on ne tire pas attention, alors qu'on était déjà dans une très bonne évolution.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire respecter les droits de l'homme dans un pays?
Ah, madame, vous avez posé une question très, très, très intéressante. Qu'est-ce qu'il faut dans un pays pour que l'on fasse une promotion qu'il faut, nécessaire pour les droits de l'homme? Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Et le premier des facteurs, c'est quoi? C'est l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Donc, une certaine sensibilisation, une certaine appropriation des droits de l'homme. Il ne faudrait pas que celui qui dirige, celui qui a une partie de pouvoir, considère les droits de l'homme comme quelque chose d'ennemi. Sinon, on est dans un état de police. Mais lorsqu'on est dans un état de droit, on doit comprendre tout de suite que parler des droits de l'homme, c'est me rappeler en tant que dirigeant à faire ce que je dois faire, ce que j'ai promis à la population, ce qui est prévu par la Constitution, les lois et les conventions internationales. Donc cette éducation, pas seulement au niveau des autorités, mais au niveau aussi de la population. En tant que population, nous-mêmes aussi. Vous voyez, par moments, nous sommes pleins de notre culture, de nos coutumes. Vous trouverez par moments les gens qui, sur base de la coutume, ils vont dire « il faut faire arrêter cette personne-là ». Vous avez un simple problème de dette, mais vous trouvez quelqu'un qui, par la culture, ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Il dit, faites-les souffrir, placez-les dans les mauvaises conditions. Ça, c'est un problème de la culture. Donc, il faut une éducation. Mais il y y a aussi besoin des moyens. Les moyens sont nécessaires. Parce que quand nous parlons de moyens, quand nous parlons des droits de l'homme, il y a aussi les droits économiques, les droits sociaux et culturels qui ensemble font la dignité de la personne humaine. On ne peut pas séparer cela. Donc quelqu'un qui n'a pas à manger, quelqu'un qui n'a pas du travail et n'a absolument rien, vous n'allez pas lui parler des droits de l'homme parce qu'il vit dans des conditions infra-humaines. Donc les moyens économiques aussi sont très importants. Ici, dans notre pays, coup de chapeau pour le gouvernement. On félicite au pays, on félicite à l'extérieur. Voilà, croissance économique. Mais il y a beaucoup d'efforts qu'il faut fournir à ce niveau-là pour éviter les écarts dans le bénéfice de ce qu'il y a comme croissance. Il ne faut pas que cette croissance, par exemple, profite à 10% seulement et pas tout le reste. Là, on ne peut pas avoir les droits de l'homme. Et il y aura seulement des frustrations, et ces frustrations qui peuvent conduire même à des conflits et beaucoup d'autres situations désagréables. Donc les moyens financiers, les moyens économiques sont aussi déterminants. Vous pouvez avoir des mécanismes. Vous avez la CNDH, mais vous ne dotez pas la CNDH les moyens nécessaires pour faire le travail sur le terrain. Eh bien, il n'y aura pas de droits de l'homme. Donc, tous ces éléments jouent ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait aussi ajouter à cela une véritable et transparente coopération avec d'autres États et avec les organisations internationales, régionales et même l'ONU.
Alors, on va souffler un peu, maître Wemboloa Otudi Kenge, comment vous passez vos moments de détente?
Oh, les moments de détente, on circule et par moments on se repose, on fait un peu près aussi du sport et donc la musique, donc la détente, elle est là, elle est vraiment collée. C'est ça aussi, les droits culturels, c'est aussi un droit. On peut.
Alors, c'est quel genre de musique que vous écoutez?
Oh, il y a des musiques religieuses, il y a Papa Wemba, il y a Kofi. Vraiment, je n'ai pas vraiment de choix tel qu'il faut nécessairement tel musicien.
Vous écoutez tout genre de musique?
Oui.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment?
En ces moments, il y a une musique. Si vous aviez la musique de Chaka Zulu, ça me ferait très grand plaisir.
Une musique de Chaka Zulu.
Chaka Zulu.
Le film, vous
parlez? Oui, la musique qui est dans Chaka Zulu.
Bon.
Effectivement, madame, vous connaissez.
Ah bon?
Nous aimons beaucoup ça.
Alors, on va vous faire plaisir, maître Wemboloa, avec la chanson que vous avez demandée. Hein. J'espère qu'elle fera plaisir aussi.
Ça m'étonnera si vous l'avez.
ne vous inquiétez pas, nous sommes très fournis. J'espère que ça fera aussi plaisir à tous les auditeurs des Radio Capi que nous suivons en ce moment partout en RDC, sur la fréquence FM, et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, vous allez découvrir aujourd'hui Maître Wembo Luao Tshudi Kenge Henri, il est avocat et président de l'ONG Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux et coordonnateur du réseau des protections des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias. Maître Wembo Luao, vous avez à votre actif plusieurs publications sur le droit de l'homme et la toute dernière publication c'est Réflexion sur la déclaration universelle des droits de l'homme.
Oui, réflexion sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, valeur,
contenu et importance,
vue d'Afrique.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage?
Oui, dans cet ouvrage, nous avons fait une réflexion sur ce texte important qui est le socle même des droits de l'homme dans le monde, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration, nous l'étudions dans le temps. Qu'est-ce qui a inspiré cette déclaration et qu'est-ce que cette déclaration a pu donner au monde? Parce que aujourd'hui, lorsque on prend les constitutions de plusieurs pays du monde, elles se réfèrent toujours à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans les organisations régionales, que ce soit la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, se réfèrent tous à cette déclaration. Alors, pour nous aussi, question de voir quelle est la valeur aujourd'hui de ce document. Donc, ce document a aujourd'hui une valeur très 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 capitale parce que il est la base ou le socle ou le cœur même des droits de l'homme dans le monde. C'est pour cette raison que nous voyons l'évolution que cela a donnée et plus particulièrement en Afrique, quelle est la conception que l'on se donne aujourd'hui des droits de l'homme.
Alors, donc, vous avez dit quelque chose de très intéressant là. Tous les pays ou toutes les constitutions presque des pays se réfèrent à cette déclaration universelle des droits de l'homme.
Effectivement.
Mais malheureusement, ces droits ne sont pas respectés.
C'est ça la difficulté, ce qui est contradictoire. Et même dans tous les discours, aujourd'hui par exemple, il y a des États où vous ne pouvez pas faire passer une loi si vous ne dites pas que cela a des rapports avec les droits de l'homme. Et donc, on a donné une très 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 grande importance aux droits de l'homme. Mais dans la pratique, il y a encore beaucoup à faire. Alors, parlons de l'Afrique, parlons de notre pays. Aujourd'hui, tout celui qui prend le pouvoir, même s'il ne cite pas le mot droit de l'homme, dans tout ce qu'il va dire, je ferai pour vous du bien, je ferai pour vous ceci, cela, tout cela a des rapports, des ramifications avec les droits de l'homme. Et on croit que non, quand celui-là passe, c'est la liberté, il passe, c'est les droits économiques, sociaux et culturels qui seront réalisés pour tout le monde, mais dans la pratique, il y a encore beaucoup d'écarts. Alors, sur le plan de la valeur, il y a la valeur sur le plan juridique, c'est même un texte de droit international coutumier, c'est-à-dire un pays, même s'il ne fait pas référence, là où on pratique la torture, même s'il n'y a pas de loi, même s'il n'y a pas de convention, on dit que ce pays, ces agents sont en train de violer les droits de l'homme. Même si vous ne connaissez pas la torture, mais on vous dit, là, il y a violation. Donc, il a une très grande valeur. Alors, l'importance, c'est politique et c'est culturel. Donc, voilà un peu cette déclaration qui, aujourd'hui, nous amène quelque part l'humanité, c'est-à-dire on se fonde une certaine aspiration commune pour le respect de la dignité de la personne humaine, pour éviter des cas de discrimination faites à toute personne et pour que la distribution aussi de revenus soit équitable à travers le monde. Ce sont des choses qui sont importantes, il y a encore des écueils, mais il faut déjà féliciter, dans le cadre de l'ONU, ce qui a été fait, c'est déjà beaucoup, mais il faut encore faire davantage.
Comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que, surtout pour les pays africains, toutes ces constitutions qui se réfèrent à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est juste pour la consommation extérieure, pour faire voir à la communauté internationale qu'en Afrique, on respecte les droits de l'homme?
Oui, ici, je m'en vais parler comme l'ancien secrétaire général Kofi Annan, qui a dit aussi la même chose, qui a dit qu'il ne faudrait pas que les gens comprennent ou croient que les droits de l'homme, ce sont des valeurs qui sont occidentalisées et que nous devons amener chez nous. Ce sont les valeurs qui sont liées même à nos ancêtres, même à nos coutumes. Si vous allez dans nos coutumes, si vous allez à Kasongo ou au Kindu, là-bas, on vous dira « Kwetu akutoke boi ». Donc, on croit que tout le monde mérite une certaine valeur. Vous partez célibataire, là, on va vous dire, oro tetela kema fumbe. Donc, on n'accepte pas qu'une personne humaine soit un esclave. Donc, ce sont des valeurs qui sont innées, qui sont liées à tout être humain, à tout être humain. Et alors, chez nous, aujourd'hui, avec le monde actuel, il faut tenir compte du droit international, des droits de l'homme qui a évolué et du droit international humanitaire. Parce que dans un pays, on ne peut pas aujourd'hui se dire que nous sommes un État souverain, nous n'avons pas affaire à ces valeurs-là, ce sont des valeurs importées. Non, on peut venir vous les imposer dans votre propre pays. Parce qu'il n'est pas accepté que, parce que vous avez un certain pouvoir et vous devez brimer tous vos frères, toutes vos sœurs au nom de la souveraineté. Voilà par exemple ça. Donc ce sont les retombées, ce sont les actifs, n'est-ce pas, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ce développement du droit international.
Alors vous dites qu'on peut venir vous imposer ce respect des droits de l'homme.
On vous l'impose et aujourd'hui on parle même des notions plus fortes, on dit devoir d'ingérence humanitaire. Donc, vous êtes chez vous, vous avez toute l'autorité, mais les gens sont en train de souffrir de votre fête, par exemple. On dit, nous devons entrer chez vous parce que ce sont nos semblables. C'est le même sang humain. C'est la même dignité à tous. Et on se dit, ce qui peut se faire dans un État, aujourd'hui, contre une personne, ça peut avoir des répercussions sur la région et même sur toute l'humanité. D'où il faut intervenir, il faut forcer pour que l'on respecte, que l'on donne de la valeur.
Là, il y a pas, en ce moment, on ne va pas parler d'ingérence dans les affaires
oui,
à l'intérieur d'un pays.
C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus cette souveraineté de passé. Là où il y a des questions de violation grave des droits de l'homme, la communauté internationale a le devoir d'ingérence. On parle du devoir d'ingérence et surtout si c'est le Conseil de sécurité qui prend cette décision et dit nous devons intervenir pour par exemple éviter les catastrophes.
Donc on se fiche vraiment de la souveraineté des pays.
On s'en fout et on peut même sanctionner les dirigeants s'ils veulent empêcher que l'on puisse apporter secours à des personnes qui sont dans le besoin.
Maître Henri, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous avez un dernier mot, peut-être à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Oui, nous saluons tous nos auditeurs et nous souhaitons que nous aurons encore d'autres occasions et nous les recommandons qu'ils puissent lire Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été publiée par l'Armatan. Et...
Où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage ici?
Oui, on peut se procurer cet ouvrage chez C'est dit et on va mettre encore d'autres éléments chez l'Armatan et d'autres maisons. Mais l'ouvrage est déjà sur place. Et en plus...
Et pour ceux qui sont en province, qui ont besoin de ça
Ils auront plus tard. Ils peuvent l'acheter en ligne. C'est qu'ils mettent seulement dans Google, qu'ils mettent l'Armatan, ils vont trouver le livre, ils peuvent acheter en ligne.
Et donc, c'est à combien le prix?
Le prix en Europe c'est 38 euros, ici nous avons mis seulement 60 dollars.
Vous avez mis seulement?
Seulement 60 dollars.
Quand vous dites seulement, ça veut dire que c'est pas beaucoup d'argent pour vous.
Non, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde, voilà. C'est beaucoup d'argent pour tout le monde, mais ce sont des sacrifices. Et donc, à tous nos auditeurs, nous souhaitons que les droits de l'homme soient notre affaire de tous les jours. Les droits de l'homme, ce n'est pas une affaire des étrangers, ce n'est pas une affaire de qui que ce soit, mais c'est une affaire de nous tous, tout être humain. Parce que c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. C'est la valeur commune à tous les êtres humains, nous insistons.
Merci beaucoup, Maître Henri Wemboloa. Je rappelle que vous êtes avocat et coordonnateur du réseau des protections des défenseurs des droits de l'homme, victime, témoin et professionnel des médias. Vous êtes également président de l'ONG Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux. Encore une fois, merci d'être venu dans le studio de Radio Okapi. Merci à Bob Landou qui était à la prise de son au micro Kevin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Merci, madame.